VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 1er décembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sylvia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Des soldats ougandais sont entrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, ciblant les rebelles ADF selon des sources concordantes.
En République centrafricaine, une trentaine de civils et deux militaires ont été tués dans des attaques rebelles dans le nord-ouest du pays.
En Guinée, la junte autorise pour raisons humanitaires un séjour des ex-présidents Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara qui vivent tous deux à l'étranger.
La Chine promet de soutenir l'Afrique sans lui imposer sa volonté à l'issue du forum sur la coopération sino-africaine au Sénégal.
Omicron, les fermetures de frontières seront évaluées semaine après semaine, déclare le président américain Joe Biden.
Trois morts et huit blessés. C'est dans une nouvelle fusillade tragique dans un lycée du Michigan, ici aux États-Unis.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, selon des sources concordantes, des soldats ougandais sont entrés sur le territoire congolais après les frappes aériennes et tirs d'artillerie hier contre le groupe armé ADF. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des vidéos amateurs filmées à un poste aux frontières de l'Est de la RDC circulant sur les réseaux sociaux montrent des militaires en treillis, armés, petit drapeau ougandais sur la manche, avançant à pied sous le regard d'habitants. Une source au sein des Nations Unies a confirmé que les premières troupes ougandaises sont entrées en RDC par le poste frontière de Noboli, dans le nord Kivu. L'entrée effective sur le territoire congolais de troupes ougandaises au sol n'a pas été confirmée officiellement par Kinshasa ou Kampala. Toutefois, dans un communiqué, la porte-parole de l'armée ougandaise, Flavia Bekwaso, indique que les cibles visées mardi par les frappes aériennes et tirs d'artillerie ont été atteintes avec précision. Elle a ajouté que les opérations contre ceux qu'elle qualifie de terroristes vont continuer. Hier, Kampala et Kinshasa ont annoncé officiellement des frappes aériennes et des tirs d'artillerie depuis l'Ouganda contre des positions des ADF, groupes armés accusés par le Congo de massacres de civils dans l'est de la RDC, et par Kampala de récents attentats revendiqués par le groupe État islamique.
En Centrafrique, une trentaine de civils et deux militaires ont été tués dimanche dans des attaques de groupes armés dans le nord-ouest du pays. C'est le bilan le plus lourd depuis l'instauration par le président Faustin Archange Touadéra d'un cessez-le-feu. Nani Talani nous en dit plus.
Le sous-préfet de la région, Ezaïk Boinin, a précisé que deux attaques ont été menées simultanément dans les villages de Kaïta et Bayengu, à environ 500 km au nord-ouest de Bangui. Depuis lundi, de nombreux habitants de la région se sont réfugiés au Cameroun voisin. Le sous-préfet Boinin met en cause les rebelles du groupe dit les 3R, l'un des plus puissants du pays et composé majoritairement de Peuls. Les 3R ont participé à la coalition rebelle qui a lancé fin décembre une vaste opération pour renverser le président Faustin Archange Touadéra qui briguait un deuxième mandat. Selon International Crisis Group, le groupe 3R bénéficie d'un approvisionnement important en armes et ses combattants maîtrisent la guérilla. La situation va s'empirer dans les semaines à venir si la sous-région et les partenaires occidentaux ne font rien pour contraindre les belligérants à respecter le cessez-le-feu, prévient Hans de Marihan Group, analyste à ce groupe de réflexion. Le 14 novembre, 11 civils ont été tués dans la même région dans des échanges de tirs entre soldats et rebelles.
Au Burkina Faso, des dizaines de terroristes ont été tués, 300 suspects interpellés et des bases détruites entre le 21 et le 27 novembre lors d'une opération conjointe entre les armées du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, a annoncé hier le ministre burkinabé de la Sécurité. Le point avec Rosine Munezero.
Pendant ces 6 jours, 5728 soldats du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo ont été déployés sur le terrain de part et d'autre des frontières avec 881 engins roulants et 6 vecteurs aériens pour une opération conjointe anti-djihadiste baptisée Gundalgu 4, a déclaré le ministre burkinabé Maxime Koné lors d'une conférence de presse. Selon lui, l'opération a permis d'interpeller 300 suspects, dont plusieurs étaient recherchés, de saisir 53 armes à feu, d'importantes quantités de munitions et 144 véhicules et cyclomoteurs, ainsi qu'une importante quantité de stupéfiants sur l'ensemble des 4 pays, a-t-il détaillé. Selon le ministre burkinabé de la Sécurité, le climat d'insécurité entretenu par la criminalité transnationale, les trafics de tout genre, les vols à main armée, les enlèvements et les assassinats ont justifié la conduite de cette opération conjointe multilatérale. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes et de plus en plus meurtrières.
En Guinée, la junte au pouvoir a annoncé hier avoir autorisé les ex-chefs d'État Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara, qui vivent tous deux à l'étranger, à séjourner en Guinée pour raisons humanitaires. Le capitaine Camara vit depuis sa chute au Burkina Faso. Il a tenté sans succès de rentrer en Guinée sous le président Alpha Condé au pouvoir de 2010 jusqu'à son renversement le 5 septembre par des militaires.
Dadis Camara a été remplacé par le général Sékouba Konaté, qui était à la tête d'une transition qui a abouti à l'élection de M. Condé en 2010. Le général Konaté avait été interdit de rentrer en Guinée à la suite du coup d'État annoncé par le régime de M. Condé en juillet 2011. Plusieurs de ses proches avaient ensuite été arrêtés.
La Chine promet aux pays africains de les aider à surmonter le choc du Covid-19 et les effets du réchauffement. Pékin promet aussi de ne pas imposer sa volonté à l'Afrique, demandant aussi au continent de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures chinoises. Abdourahman Diab.
À la fin du 8e forum sur la coopération sino-africaine à Djamnaïo, près de Dakar, la Chine et 53 pays africains ont appelé les pays développés à faire preuve d'une plus grande ambition face au changement climatique et à soutenir davantage les pays africains en première ligne de ces évolutions. La Chine et l'Afrique ont toutes deux le droit au développement, peut-on lire dans la déclaration finale, touchant à une inquiétude répandue en Afrique d'un développement sacrifié au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en souhaitant voir la Chine, premier partenaire commercial du continent, poursuivre ses grands chantiers, les dirigeants africains espèrent des échanges commerciaux moins déséquilibrés et une relation d'affaires plus profitable au continent. Les pays africains réitèrent leur attachement au principe d'une seule Chine, selon lequel Taïwan fait partie de la Chine. Selon eux, les questions liées à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet relèvent des affaires intérieures de la Chine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a déclaré hier que les États-Unis, qui ont fermé leurs frontières aux voyageurs de 8 pays d'Afrique australe, évalueraient leur politique semaine après semaine en fonction de l'évolution des connaissances sur le nouveau variant Omicron du Covid-19. Il répondait hier dans le Minnesota à une question sur ses restrictions au voyage en vigueur depuis la veille.
Le Canada a quant à lui interdit hier d'accès à son territoire les voyageurs en provenance du Malawi, du Nigeria et d'Égypte, portant à 10 le nombre des pays tous africains concernés par cette mesure. Pour sa part, l'OMS a jugé hier inutile ces interdictions de voyage pour endiguer la propagation du nouveau variant Omicron, dont des cas ont été détectés au Brésil pour la première fois en Amérique latine.
Officiellement signalé en Afrique du Sud le 24 novembre, ce nouveau variant, très contagieux, aurait en fait commencé à se propager dans le monde plusieurs jours plus tôt, les autorités sanitaires néerlandaises ayant annoncé mardi qu'Omicron circulait déjà aux Pays-Bas le 19 novembre.
Par ailleurs, un comité de scientifiques indépendants s'est prononcé hier en faveur de l'autorisation en urgence pour certains patients à risque de la pilule anti-Covid de Merck aux États-Unis. La décision finale revient à la FDA, l'agence américaine des médicaments.
Nouvelle fusillade dans un lycée américain. Un jeune de 15 ans a ouvert le feu pour un motif inconnu mardi dans un lycée du Michigan, faisant 3 morts parmi des élèves, un garçon de 16 ans et 2 filles de 14 et 17 ans, ainsi que 8 blessés, dont un enseignant, selon la police. Le tireur présumé, lui-même élève au sein de l'Oxford High School, a été arrêté et n'a pas expliqué son geste, dit-elle.
La Minute Éco, Claire Morin-Jubourg.
La Banque de développement du Rwanda va bénéficier d'une nouvelle facilité à long terme de 30 millions d'euros décrochée auprès de la Banque européenne destinée aux entreprises rwandaises par le biais de son mécanisme de réponse rapide à la crise Covid-19. Selon Financial Afrique, ce nouveau plan de financement ciblé comprendra le soutien aux entreprises dans les secteurs les plus touchés et débloquera des investissements pour accélérer la reprise du secteur privé après la pandémie. Plus de 500 accords commerciaux conclus pour 42 milliards de dollars de retombées. C'est le bilan de la deuxième édition de la foire commerciale africaine qui s'est tenue du 15 au 21 novembre à Durban en Afrique du Sud. Un chiffre en hausse malgré la conjoncture. En 2018, les contrats signés lors de cette foire organisée par Afreximbank en partenariat avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine étaient de 38 milliards de dollars. Ici aux États-Unis, le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a jugé hier que le moment est venu de cesser de parler d'une inflation temporaire dans le pays. Pour lui, les risques d'une inflation plus persistante se sont accrus.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, Nick Mwandawa, patron de la Fédération kényane de football, a été de nouveau inculpé pour corruption hier, quelques jours après que l'État a renoncé à le poursuivre, accusé d'avoir détourné 38 millions de shillings, environ 300 000 euros versés par l'État et des sponsors. Mwandawa a nié devant un haut tribunal de Nairobi toutes les charges pesant sur lui. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics et complicité de corruption. En attendant sa prochaine comparution prévue pour le 20 décembre, il a été libéré sous caution. Il lui est interdit de quitter le pays, d'accéder au bureau de la fédération et d'entrer en contact avec des témoins. Mwandawa, 42 ans, a été arrêté le 12 novembre après que le gouvernement a limogé tous les dirigeants de la fédération qu'il dirigeait depuis 2016. Jeudi dernier, un tribunal a classé l'affaire faute de preuves, mais il a été arrêté à nouveau le lendemain. Le Bayern Munich va devoir rejouer à huis clos prochainement en raison de nouvelles mesures anti-Covid, a annoncé le chef de l'exécutif régional de Bavière, Markus Söder. Lui, qui plaide pour une interdiction des spectateurs au niveau national, a annoncé que sa région prendrait les devants quoi qu'il arrive. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose dans le football, a-t-il ajouté en référence au match Cologne-Mönchengladbach qui s'est tenu samedi devant 50 000 spectateurs, provoquant des critiques de toutes parts. En Allemagne, chaque région est autonome pour décider des mesures anti-Covid et certains clubs peuvent jouer dans un stade plein ou partiellement plein, alors que d'autres jouent à huis clos. La Chine a reconnu que le nouveau variant Omicron serait synonyme de difficultés supplémentaires pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, prévus du 4 au 20 février prochain, mais a réaffirmé sa confiance dans la réussite de l'événement. La vie a repris son cours normal en Chine dès le printemps de l'année dernière, mais le pays reste confronté à l'apparition de petits foyers sporadiques. Alors que les frontières chinoises sont pratiquement fermées depuis mars 2020, les Jeux de Pékin se dérouleront dans une bulle sanitaire dont ne pourront sortir les quelques 2900 sportifs attendus. Et sans spectateurs étrangers, les participants devront soit être vaccinés, soit se soumettre à une quarantaine de 21 jours. À leur arrivée, tous seront soumis à des tests de dépistage quotidiens. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Eh bien, surprise, Golden State Warriors a été battu par Phoenix 104 à 96. Les Lakers et Sacramento 117-92, Memphis et Toronto 98-91, Brooklyn Nets et New York Knicks 112-110, Portland et Détroit 110-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les opérations conjointes des forces spéciales ougandaises et de la République démocratique du Congo vont se poursuivre sur le sol congolais en profondeur, indique le porte-parole du gouvernement de la RDC. Les habitants de Watalinga, à Beni, dans l'est du pays, disent avoir vu les militaires ougandais entrer sur leur territoire congolais. Eddie Isango, adjoint dans la région, l'éditeur du journal Les Coulisses, spécialiste de la question ADF, Nikez Kibel-Beloka.
Les militaires UPDF dans l'armée ougandaise est effectivement arrivé sur le sol congolais à la frontière dans la localité de Nobili. Elle a traversé effectivement la frontière, elle s'est arrêtée à Nobili. Elle est accompagnée de quelques officiers FRDC, donc les deux armées sont cantonnées à Nobili. Pour le reste, pour la suite, nous ne savons pas comment ils ont planifié les opérations.
Pourtant, le porte-parole du gouvernement, celui des armées et de la police, ont mis en garde et ont dit que les vidéos montrant les armées ougandaises entrant n'étaient pas vraies.
Bon, écoutez, le problème, ce n'est pas au niveau de Kinshasa. Le problème, c'est que les états-majors des armées de pays voisins se sont retrouvés. Ils ont, en langage militaire, ils parlent de mutualisation de forces. Le constat est le suivant. Les rebelles, la déstabilisation de la RDC est en partie le fruit des Ougandais, des Rwandais, des Burundais. Alors, lorsqu'il faut mutualiser les forces, il faut traquer ces ennemis, ces gens qui déstabilisent. Donc, comme ça se passe sous le sol congolais, il faut que les opérations se déroulent sur le sol congolais. Ça, au niveau des états-majors, ça a été décidé ainsi. On a vu le chef MG, donc le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Mbala, qui a fait la tournée des pays de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il a été à Luanda, en Angola, il a été à Bujumbura, au Burundi, il a été en Uganda, à Kampala, à Entebbe, il a été à Kigali. Donc, ils avaient décidé ensemble, au regard de tous les paramètres, de toutes les informations qu'ils avaient, il fallait mutualiser les forces et la mutualisation, c'est sur le sol congolais.
Le porte-parole du gouvernement, c'est lui et des armées et de la police, ont parlé des opérations conjointes et ciblées.
Il y a eu des tirs d'artillerie, des armes lourdes qu'on a tirées sur le sol congolais. Bon, vous savez, c'est la planification militaire, il n'y a pas assez de détails, mais le survol aérien, pas encore, mais la série lourde, on a tiré.
Et comment la population sur place a accueilli ces militaires ougandais qui sont entrés, parce qu'on a vu des images, des vidéos?
L'armée ougandaise est entrée, pas comme une armée conquérante, elle est entrée, et sur invitation, sur mutualisation de forces, la population l'observe. Pour la population, avec 20 ans d'échec des forces étrangères, notamment de la MONUSCO, pour la population, ce qui compte, c'est qu'on arrive à avoir la paix, à ramener la paix. Ce qui est plus important, par contre, ce n'est pas la présence de l'armée ougandaise. Ce qui est plus important, c'est la planification, c'est-à-dire limiter les opérations dans le temps et dans l'espace, et la durée notamment, et obtenir des résultats positifs plus rapidement possible.
Nikez Kibel-Beloka, l'éditeur du journal Les Coulisses, spécialiste de la question ADF.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Gabon, la Fédération des syndicats des régies financières est en grève générale illimitée. Devant l'impasse dans les discussions avec le gouvernement, les collecteurs des recettes de l'État font peser un risque énorme sur les finances du pays, selon notre correspondant à Libreville. Il revendique le versement de l'intéressement spécifique et la prime de performance budgétaire. Le bras de fer qui oppose les grévistes au gouvernement pourrait davantage plomber une économie gabonaise déjà fragilisé par la pandémie du Covid-19, nous dit encore notre correspondant Ismaël Obiangze.
C'est une grève effective dans l'ensemble des services des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor public. Mais l'opinion reste divisée sur le principe d'accorder les primes aux agents publics de l'État.
Est-ce qu'on ne va pas donner une prime à un agent également qui ne vient pas au boulot sous prétexte qu'il est seulement agent, alors qu'il y a un qui se pointe tous les jours?
C'est au chef de décider de donner à celui qui mérite. Mais dire qu'on va supprimer à tout le monde, non.
Sur le piquet de grève, du bon monde chauffé à blanc, avec des banderoles écrites au rouge, indiquant le caractère illimité du mouvement. Devant le bureau barricadé, Ulchérie Mateya, du syndicat des douanes, lance un appel au sacrifice.
Nous avons admis que nous n'allons rien avoir ce mois-ci, mais aucun sou ne va rentrer non plus dans les comptes du budget et de l'État.
Les collecteurs des régies financières quittent l'Assemblée générale avec une consigne claire à l'adresse des syndiqués.
Il serait mieux de respecter la distanciation sociale avec nos bureaux.
Sylvain Ombinga Telewa, porte-parole des collecteurs des régies financières.
Nous voulons dire au gouvernement que si vous avez honte de publier les noms de vos parents que vous avez recrutés et que vous payez malgré qu'ils soient décédés, retraités, ou les noms de vos parents qui touchent 2, 3, 4 fois cette prime, asseyons-nous et nettoyons l'officier pour rendre l'enveloppe plus soutenable, afin que les agents des régies financières vivent dignement du travail qui est le leur.
On rappelle que les grévistes revendiquent le versement de l'intéressement spécifique et le reste de la prime de performance budgétaire, dont 36% seulement avait été payé. En réponse à la colère de la Fédération des syndicats des régies financières, le gouvernement affirme que l'octroi des primes est désormais encadré par la loi. Madeleine Baird, ministre de la fonction publique.
Donc aujourd'hui, les deux primes en question sont adossées à la réalisation et à l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Si les objectifs atteints sont de 6 ou 7 ou 9, il n'y a pas prime, elle n'est pas versée. Ensuite, vous avez à voir la seconde prime, qui est une prime d'intéressement spécifique, qui, elle est octroyée à certaines administrations, comme l'administration des douanes, des impôts, du trésor et des hydrocarbures, qui, va récompenser l'effort exceptionnel que vous avez fait en excédent.
Estimant avoir atteint leurs objectifs budgétaires sans toutefois avancer le chiffre, les régies financières promettent de durcir le temps aussi longtemps que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Libreville, Ismaël Oubanzé pour VOA Afrique.
Célébration ce 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest par le virus, avec un taux de prévalence de 2,7%. Des politiques de lutte contre cette pandémie ont été mises en place dans plusieurs secteurs d'activité. Malheureusement, le contexte socio-culturel lié à la stigmatisation, à la discrimination affectant des personnes vivant avec le VIH peut constituer un frein à l'accès aux soins, souligne notre correspondante à Abidjan, Delphine Boïse.
Le VIH-Sida est un problème de santé publique et constitue une menace pour le monde du travail. Professeur Yves Yeboué est directeur de la santé, de la sécurité au travail du BIT, le Bureau international du travail.
Le VIH-Sida est un problème très important, tant au niveau de la population générale qu'au niveau du monde du travail. Et n'oubliez pas qu'un travailleur, par exemple, a à charge toute une famille. Et chaque fois que quelqu'un est atteint dans le monde du travail, c'est la famille qui est concernée. Mais c'est aussi l'entreprise elle-même qui est concernée. Et ça peut désorganiser tout un système de travail.
Discrimination et stigmatisation. Les trois des personnes vivant avec le VIH sont souvent violées du fait de leur séropositivité présumée ou connue. Hélène Nyonsaillé est responsable du syndicat de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire.
Avec le VIH-Sida, il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. D'abord à l'emploi. Il y a certaines entreprises qui exigent par exemple le test du sida. Le travailleur n'a pas demandé à être contaminé, il a droit au travail.
Sur le plan des interventions en droits humains, en lien avec le VIH, Michel Goba, chargé de programme à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, présente quelques données chiffrées.
On a pu notifier depuis 2019 jusqu'à ce jour 1008 cas. En termes de proportion, les personnes vivant avec le VIH sont en tête.
Réaction du professeur Yves Yeboué, médecin de la sécurité du travail.
Nous ne souhaitons pas que quelqu'un qui est infecté, par exemple, il fasse l'objet de discrimination situation de stigmatisation ou qu'ils soient rejetés du monde du travail.
Experts en VIH au SIDA, Amadou Cissé relève l'impact économique de la pandémie sur la survie des entreprises.
Nous avons beaucoup plus peur de par son impact économique parce que cette pandémie affecte les ressources humaines, amis de travail.
Prise en charge et accès au traitement des travailleurs nous partagent leur situation.
Je viens avec ça depuis près de 10 ans.
Les médicaments sont gratuits, on les gagne facilement. Les médecins nous soutiennent puisque c'est eux qui sont là à notre écoute.
Professeur de médecine du travail à l'UFR des sciences médicales de l'Université de Cocody, professeur Jean-Sylvain Bonny revient sur la qualité de l'offre de soins à offrir aux travailleurs.
Mettre l'accent sur les différentes visites et les soins pertinents à donner en cas de maladie.
L'élaboration d'une bonne politique de prise en charge du VIH-SIDA en milieu professionnel participe à une meilleure santé des ressources humaines et fait en outre rayonner le monde du travail. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Reliés par un pont, deux pays séparés par un fleuve, c'est l'objectif que les présidents mauritaniens Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et sénégalais Macky Sall, qui lançaient ce mardi les travaux de construction du pont de Rosso à la frontière commune. Un pont qui devrait aussi renforcer la route commerciale entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
Après l'accord de partage du gaz découvert à leur frontière commune, les deux pays voisins, la Mauritanie et le Sénégal, posent un nouvel acte envers leur intégration économique et sociale. Cette fois par la mise en place d'un pont au-dessus du fleuve qui leur sert de frontière. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
En leurs efforts permanents d'intensifier et de diversifier leur coopération, nos deux États ne font en fait que structurer et formaliser les liens d'échange économique, d'amitié, de fraternité qui ont toujours uni nos deux peuples et scellé leur communauté de destin bien avant la naissance de nos États modernes.
Le pont va s'étendre sur une longueur de 1,5 km. Cela équivaut à la distance du fleuve entre les deux pays. Sa largeur sera de 15 mètres avec une chaussée à deux voies. Chertigan Kiam du comité ad hoc de gestion du projet.
L'axe Dakar-Nouakchott via Rosso est un axe pas moins, non moins important sur le plan économique parce qu'on voit beaucoup de pêcheurs mauritaniens avec leurs produits qui vont au Sénégal et de l'autre côté aussi on note les productions agricoles avec tout ce qui est riz et tout ce qui est légumes. Les échanges qu'on a entre les deux pays, ce pont va le booster.
Mais au-delà des attentes des populations locales, Nouakchott et Dakar nourrissent des ambitions régionales. Le président sénégalais Macky Sall.
Plus qu'un ouvrage de franchissement, le pont de Rosso sera en effet un puissant trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il constitue un maillon essentiel du corridor transcôtier Tanger-Casablanca-Nouakchott-Dakar. Se poursuivra sur Abidjan-Lagos.
L'infrastructure dénommée Pont de Rosso, du nom de la ville frontalière qui l'abrite, sera construite sur une durée de 30 mois pour un coût global de 87 millions d'euros. Cette enveloppe financière sera débloquée par les partenaires du projet, ici cité par le président mauritanien.
Nos deux États ont bénéficié de l'appréciable concours financier de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Et c'est ici l'occasion de leur témoigner notre gratitude et de leur exprimer nos vifs remerciements.
Quelques 115 véhicules traversent la frontière de part et d'autre au quotidien. Selon la BAD, Banque africaine de développement, ce chiffre sera triplé à la mise en service du pont et peut-être multiplié par 30 à l'horizon 2050. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph, qui était également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.